On va commencer notre 87e leçon dans notre série sur la théologie systématique. Ce soir, nous allons voir la doctrine de la propitiation, l'expiation et la réconciliation telle qu'attribuée à Christ. Autrement dit, les Écritures, dépendamment des endroits où on va lire, parle de propitiation, parle d'expiation, puis parle de réconciliation. C'est quoi les différents? Parce que dans le fond, ce qu'on fait ce soir, c'est de regarder certains termes théologiques pour essayer de mieux les comprendre, mieux les définir, puis de voir aussi les différences qu'il y a. Est-ce que c'est la même chose, la propitiation et l'expiation? S'il y a une différence, quelle est cette différence pour qu'on puisse mieux comprendre les Écritures quand on parle du salut de Jésus-Christ? Alors, dans la dernière leçon, on avait vu la doctrine de la satisfaction de Christ, qui est elle-même intimement reliée à celle de la rédemption. Alors, la doctrine de la satisfaction utilise des notions telles que la propitiation, l'expiation et la réconciliation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le sens de ces différents mots théologiques parce que ça aide à comprendre certaines choses concernant les Écritures. Par exemple, on va commencer le premier par la propitiation. On va aller regarder un verset qui utilise le mot. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Romains 3, versets 25 et 26, et ça parle de Christ dans le contexte quand ça dit « C'est lui que Dieu a destiné, c'est lui, c'est Christ. » « C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Alors, on va essayer d'éclaircir, d'approfondir un peu le sens de ce mot-là. Romains 3, 25 nous dit que Dieu a offert le Christ comme victime propitiatoire. Et la propitiation, c'est relié à l'idée de subir la colère de Dieu jusqu'au bout, et en ce faisant, change la colère de Dieu contre nous en faveur. Paul ajoute que c'était afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi. Dieu n'avait pas simplement pardonné le péché et oublié la punition qu'il entraîne dans les générations passées. Il avait pardonné les péchés et laissé s'accumuler sa juste colère contre ses péchés, mais à la croix, la fureur de toute cette colère accumulée contre le péché s'est déchaînée contre le Fils de Dieu. Voyez-vous, qu'est-ce que le verset est en train de dire? C'est que les péchés qui étaient commis depuis Adam jusqu'à la venue de Christ, l'autre jour, on disait que l'expiation, le mot fondamental, le sens fondamental, c'est le sens de couvrir. Si ça couvre, c'est autrement dit, Dieu a accordé le pardon à ceux qui croyaient véritablement que le sang des animaux couvrait ça couvrait le péché. Mais ce que ça faisait, en fait, c'est que ça l'accumulait la colère de Christ. Il la retenait sur ces personnes-là qui n'avaient pas encore été déversées sur la victime. Il la retenait jusqu'au moment de l'apparition du Messie. Et quand Jésus était sur la croix, et quand il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est là que le Père déversait la colère de l'ensemble des péchés depuis le début jusqu'à lui et tous les pécheurs qui viendraient après Christ. Donc, autrement dit, quand ça dit « afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. » Il ne les avait pas laissés impunis. Il avait tout simplement accumulé la colère pour que quand son fils viendrait, il la subirait. Alors, c'est pour ça que ces gens-là, quand ils croyaient en la victime, quand ils croyaient au sang propitiatoire, c'était une forme de croyance à la venue future de Christ. Alors, j'ai fouillé un petit peu dans les manuels de théologie, j'ai regardé dans trois, pour regarder comment ils expliquaient le mot propitiation. C'est important parce qu'on va voir qu'il y a eu des choses qui ont été faites par rapport à la traduction des versets qui, à mon avis, n'ont pas été correctes. Alors, ici, c'est Wayne Grudem, dans son manuel, quand il parle de ça, il a son livre de théologie est en français, si jamais il y en a que ça les intéresse de lire des briques de théologie. Alors, lui dit, « De nombreux théologiens en dehors du monde évangélique se sont vigoureusement opposés à l'idée selon laquelle Jésus aurait subi la colère de Dieu contre le péché. Leur supposition de base est que Dieu, étant un Dieu d'amour, il ne serait pas conforme à son caractère d'être en colère contre les êtres humains qu'il a créés et qu'il a aimés comme ses enfants. » Et qu'il aime, comme ça, c'est-à-dire comme ses enfants. Mais les spécialistes évangéliques ont soutenu de manière convaincante que l'idée de la colère de Dieu était solidement enracinée dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. L'ensemble de l'argument de la partie introductive de l'Épître aux Romains est que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont pécheurs et encourent la colère et la condamnation de Dieu. Si jamais vous revisez Romains 1, Romains 2, Romains 3, vous allez voir que le fil de développement, c'est que dans le fond, tous les hommes sont coupables, tous les hommes sont condamnés, et tous les hommes, à moins que Dieu leur fasse grâce et qu'ils ne se repentent, vont un jour ou l'autre subir la colère de Dieu. C'est ce qu'il dit, lui dit. L'ensemble de l'argument de la partie introductive de l'Épître aux Romains, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, est que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont pécheurs et encourent la colère et la condamnation de Dieu. C'est sûr qu'il y a eu des théologiens au cours de l'histoire qui n'aiment pas l'idée de la colère de Dieu, alors ils cherchent à l'évacuer, ils cherchent à enlever le concept. Alors, il y a trois autres passages, à part que de Romains 3, 25 et 26, là, trois autres passages dans le Nouveau Testament qui parlent de la mort de Jésus comme d'une propitiation. Il y a Hébreux 2, 17, il y a 1 Jean 2, 2, puis il y a 1 Jean 4, 10. Alors, les termes grecs, moi, je ne veux pas vous assommer avec des termes grecs, mais c'est quand même important. Le verbe « ilaskomai », ça veut dire « faire propitiation ». Et le nom « ilasmos », donc parfois c'est utilisé comme verbe, parfois c'est utilisé comme nom, ça veut toujours dire soit « faire propitiation » ou « sacrifice de propitiation ». Quand c'est utilisé dans ces passages-là, ça a le sens d'un sacrifice qui détourne la colère de Dieu et de se faire en Dieu propice ou favorable envers nous. C'est le sens que ces mots avaient généralement en dehors de la Bible quand ils étaient bien compris en référence aux religions grecques païennes. Ces versets signifient simplement que Jésus a subi la colère de Dieu contre le péché. Quand on dit propice, des fois les gens ils vont se servir du mot propitiation, une façon, on peut dire un truc mémotechnique, c'est de se dire propitiation, donc propice. Mais Dieu le Père devenait propice envers ses élus pour quelle raison? Parce que Christ avait subi la colère que nous, on aurait dû subir à notre place. Alors, en ayant fait ça, ça le rendait propice à pouvoir mettre sur notre compte à la fois ce qu'on appelle son obéissance active. Donc, moi, dans le livre, j'ai lu quelque chose qui faisait bien mon affaire. Au lieu d'appeler ça obéissance active et obéissance passive, l'obéissance active, c'est simplement le fait que Jésus a accompli les exigences de la loi à la perfection. Et l'obéissance passive, c'est le fait que sur la croix, il a subi le châtiment que nous aurions dû subir, les souffrances que nous aurions dû subir en enfer, à notre place. Donc, c'est vraiment l'idée de la substitution. Mais il y a quelqu'un qui dit, « Moi, j'aime mieux l'obéissance préceptive et l'obéissance pénale. » Et c'est vrai que je trouve ça plus juste, parce que quand on dit de Jésus sur la croix, l'obéissance passive, quand il est sur la croix, c'était pas si passif que ça, son affaire de subir la colère de Dieu. Alors, quand il dit l'obéissance préceptive, ça veut dire qu'on se devait d'avoir obéi à la loi, au décalogue, à la perfection. Et l'obéissance pénale, ça voulait dire qu'il était prêt à subir le châtiment que nous aurions dû subir et de le subir à notre place. Donc, pénale, c'est la punition qui était rattachée à toute désobéissance à la loi de Dieu, au décalogue. Alors, moi, c'est vrai que je préfère mieux obéissance préceptive et obéissance pénale, parce que les préceptes de la loi, autrement dit, c'est les 10 commandements dans leurs exigences, il l'a fait à notre place, puis pénal, il a pris la punition que nous aurions dû subir à notre place. Je trouve que c'est plus précis comme idée que de dire active et passive. C'est comme ça l'implique quand tu dis passive que sur la croix, il n'y avait rien d'actif. Je ne suis pas tout à fait exact. Alors, il est important d'insister sur ce fait. Ça, c'est Grudem qui parle. Je le cite encore, mot à mot. Il est important d'insister sur ce fait parce que c'est le cœur de la doctrine de l'expiation. Cela veut dire que la sainteté et la justice de Dieu exigent que le péché soit puni. De plus, avant que l'expiation ait pu avoir un effet sur notre conscience subjective, elle a d'abord eu un effet sur Dieu et sur sa relation avec les pécheurs qu'il avait l'intention de racheter. En dehors de cette vérité centrale, la mort du Christ ne peut pas être bien comprise. Voyez-vous? Il va loin, là. Il va dire que si tu ne comprends pas la doctrine de la propitiation, à quelque part, tu n'as pas vraiment compris celle de l'expiation, parce qu'elles sont intimement reliées. Et le même théologien a dit une phrase que j'avais déjà pensée moi-même, mais quand je l'ai lue, j'ai dit, il y en a d'autres qui pensent ça. Le même théologien nous affirme que, sous l'influence des spécialistes qui niaient que l'idée de propitiation soit présente dans le Nouveau Testament, la plupart des traductions modernes de la Bible ont traduit « ilasmos » par « expiation », un mot qui signifie une action qui purifie le péché, mais qui ne comprend pas l'idée d'apaiser la colère de Dieu. Il dit ça. Et je l'ai rencontré ailleurs, là. Je l'ai vu une autre place en plus. Autrement dit, l'idée que Jésus, sur la croix, a détourné la colère de Dieu, a subi l'équivalent de la souffrance que nous aurions dû subir à notre place, ça leur déplaît, et quand ils traduisent les mots, devraient être traduits par propitiation. Il y a 4 versets où c'est clair que ça devrait être traduit par propitiation. Mais dans les versions modernes, il y en a un qui a gardé le mot, les autres, ils ont enlevé, puis ils ont traduit par d'autres mots. Par exemple, là, je vais vous donner Hébreux 2.17, 1 Jean 2.2, 1 Jean 4.10, dans la version David Martin, et dans la version Osterval, je pense qu'il y est dans 3 endroits, qu'il n'y est pas dans 1 sur 4. Mais dans la version David Martin, les 4 versets ont le mot propitiation. Je vous donne Hébreux 2.17, version David Martin. En passant, la version David Martin, c'est au moment de des années 1700. La première version qui a faite, c'est en 1707. C'est l'ensemble des protestants d'Europe qui lui ont, c'était un homme qui était un grand érudit du grec et de l'hébreu, lui ont demandé de traduire la Bible. Il l'a traduit en français. Et cette version-là a demeuré en vigueur et en très haute circulation dans les milieux francophones, chrétiens, européens, de 1707 à aller jusqu'au début du 20e siècle, où Louis II l'a remplacé, 1910, parce que Louis II avait eu une traduction qui tenait plus compte d'un français qu'on pourrait dire coulant. C'était pas nécessairement une traduction vraiment mot à mot. Souvent, c'était plus pour avoir une belle phrase, qui n'était pas nécessairement mauvais en soi, là. Mais c'est juste que, parfois, je ne sais pas pourquoi, la seule chose qu'on ne peut pas dire... On ne peut pas savoir pourquoi les traducteurs ont préféré expiation plutôt que propitiation. Ça peut être fait de façon volontaire ou ça peut être fait de façon qu'on n'aime pas le concept et qu'on le traduit à notre... En tout cas, moi, je vais vous les lire dans le Hébreux 2.17, version David Martin. C'est pourquoi il a fallu qu'il fût semblable à toute chose à ses frères. Là, on parle de Christ dans le contexte. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses qui doivent être faites envers Dieu pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. Si tu prends la Louis II, 1910, ta expiation, et en tout cas. Si tu prends aussi 1 Jean 2.2, dans la version David Martin, ça dit « Car c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si tu prends 1 Jean 4:10, version David Martin encore une fois, « En ceci est la charité, que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. » Voyez-vous, David Martin, il a traduit « propitiation » dans les 4 passages. À partir du moment où tu arrives plus vers le 20e siècle, l'auteur Wayne Grudem rappelle que dans les années début du 20e siècle, il y a eu un auteur nommé Dodd, D-O-D-D, qui a développé l'idée que la Bible n'enseignait pas la colère de Dieu. Semble-t-il qu'il y a eu énormément d'influence au point que ça l'a affecté certaines traductions qui ont eu lieu après. Mais après, il y a d'autres théologiens qui se sont penchés sur son œuvre et ils se sont rendus compte que, dans le fond, il y avait des raisonnements là-dedans qui étaient complètement pas corrects. Mais il reste que le mal était fait, le gars a fait beaucoup d'influence et il avait fait en sorte que la notion de propitiation était en train de glisser tranquillement en dehors de la Bible. C'est quelque chose de très dangereux parce que beaucoup de personnes considèrent la propitiation comme étant un élément faisant partie du cœur de l'Évangile. La propitiation, c'est Dieu qui est rendu propice aux pécheurs élus parce que sa justice a été apaisée. Christ a volontairement accepté d'endurer les souffrances que nous méritions à cause de nos péchés, lui qui était absolument sans péché. Alors que Jésus supportait seul la culpabilité résultant de nos péchés, Dieu le Père, le puissant Créateur, le Seigneur de l'univers, a déversé sur lui la fureur de sa colère. Jésus est devenu l'objet de la haine et de la vengeance contre le péché que Dieu avait patiemment laissé s'accumuler depuis le commencement du monde. C'est important parce que si tu évacues la question de détourner la colère de Dieu, c'est en train de dire, la Bible nous dit qu'on méritait une punition éternelle et Christ a subi l'équivalent de la punition éternelle que nous aurions dû subir. Donc ce concept de propitiation est largement développé dans plusieurs endroits dans les Écritures, dans les décrets et desseins de Dieu. On va le voir différents versets, 1 Pierre 1, versets 18 et 19. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » Acte 2, versets 22 et 23. « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Donc l'idée, Christ, quand il est venu sur la terre, c'était déjà dans le décret de Dieu que ça se passerait de cette façon-là. Mais la personne qui l'a fait, les rois qui l'ont fait, le peuple juif, pour eux c'était un péché, mais Dieu s'est servi du péché pour accomplir la manière dont la rédemption se devait d'arriver. C'est une sagesse extraordinaire. Acte 4, versets 26 à 28, « Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » C'est spécial quand on se met à réfléchir à ces choses-là. Donc, ça avait été dit dans l'idée de la propitiation avait été développée dans plusieurs versets. Dans les promesses et les prophéties aussi, dans Genèse 3, 15, quand on parle de la semence de la femme, c'est sûr qu'on fait référence à la venue future du Messie, du Christ. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il y avait aussi l'idée de la propitiation qui était contenue dans ce qu'on pourrait appeler les types et les ombres dans l'Ancien Testament. J'ai déjà étudié le livre de Lévitique au complet. C'est un livre assez difficile, c'est un livre qu'on n'est pas porté à aller étudier parce que, à cause justement de sa difficulté. Mais dans les premiers chapitres, quand on l'étudie d'aplomb, on se rend compte de quelle façon ça se rattache à l'œuvre de Christ. Et là, on est, c'est donc le fun. Alors, les cinq catégories de sacrifices du livre de Lévitique. Quand on regarde dans les cinq ou six ou sept premiers chapitres, tu as cinq types de sacrifices. Ces cinq types de sacrifices-là représentent un aspect ou un autre de l'œuvre de Christ, mais qui est différent. Par exemple, il y a cinq catégories. Il y a l'holocauste, l'offrande de gâteau, l'offrande de prospérité, l'offrande pour le péché, l'offrande pour le délit. Ça représente un aspect ou l'autre. On va juste les regarder très, très rapidement, parce que c'est pas le but d'étudier Lévitique ce soir. Mais l'holocauste. En anglais, j'aime bien, je m'étais servi d'un livre où il exprimait la principale idée qui était véhiculée par le premier sacrifice, qui est l'holocauste. Il appelle ça « the fullness of Christ's devotion ». Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est que l'holocauste, le but premier de Christ, c'était d'abord d'honorer son Père. C'était la plénitude de sa dévotion envers son Père. « The fullness of Christ's devotion » envers son Père. C'est ça l'holocauste, c'était d'abord pour son Père. Il a fait tout pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Là, on ne rentrera pas dans les détails, mais l'idée principale est là. Dans l'offrande de gâteau, l'anglais utilisait la phrase suivante, « The flawlessness of Christ's devotion ». Flawless, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème dedans. Là. C'est la vie parfaite de Christ sur terre qui a été formée, remplie et conduite par le Saint-Esprit. Autrement dit, l'offrande de gâteau, c'est la vie parfaite de Christ sur terre. C'était quelque chose qui était agréable. Donc, l'autre, l'offrande de prospérité, il utilisait l'expression de « fruitfulness of Christ's devotion ». Autrement dit, c'est l'adorateur, nous, en communion restaurée, et notre capacité de jouir de celui qui fait éternellement les délices de Dieu. Il va falloir qu'on n'ait pas le temps de rentrer plus dans les détails de ça. C'est très intéressant. Quand on étudie ça en détail, là, on va chercher des bons commentaires. Ils nous font voir ça, ils nous font voir ça en relation avec le Nouveau Testament. Et là, on voit que dans le fond, ça parle de différents aspects de l'œuvre de Christ. Et c'est présenté dans un ordre, et l'ordre de présentation est toujours très intelligent. Après ça, tu avais l'offrande pour le péché. En anglais, ils disent que c'est « covering the principle of sin ». Puis l'autre, c'est pour le délit, c'est « covering the practice of sin ». The principle of sin, c'est pour le péché au singulier. C'est-à-dire, on a hérité d'une nature pécheresse héritée d'Adam. Christ a été fait péché pour nous. Et l'autre, pour le délit, c'est « covering the practice of sin ». Donc, un, c'est le principe, notre nature pécheresse. L'autre, c'est le practice, c'est autrement dit l'actualisation des péchés. C'est pour nos péchés au pluriel. Christ qui expie nos péchés à notre place. Alors, quand on étudie ça, dans le fond, l'idée de la propitiation est à l'intérieur de ça, quand on l'étudie un peu plus en profondeur. Et on peut voir aussi l'idée détournement de la colère de Dieu dans différents endroits, quand on étudie en profondeur et en détail la vie de Christ et aussi l'Évangile dans les quatre Évangiles. Alors, chose à retenir, propitiation, détournement de la colère de Dieu. Maintenant, l'expiation, deuxième idée. Dans l'Ancien Testament, le verbe « expier » venait de l'hébreu « kaporet » et ça traduit un terme qui signifie « couvrir ». Couvrir contre la colère de Dieu. Lévitique 1, verset 4. « Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Lévitique 4, versets 20, 26 et 31. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Verset 26. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché. Il lui sera pardonné. Verset 31, le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce. Il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation lui sera. Et fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. c'est ça. Maintenant, il faut voir la différence dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs prenaient un animal, ils l'égorgeaient et ils vidaient de son sang, ils le faisaient brûler sur l'autel des holocaustes. Ça, c'est le fun que ça arrive après notre étude du tabernacle parce que c'est plus vivant. Là, ils brûlaient la victime de façon complète. Et ils pouvaient entrer dans la partie sainte. Dans la partie, le Saint des Saints, ils ne pouvaient entrer qu'une fois par année. Et ce n'était pas n'importe quel sacrificateur qui pouvait rentrer là. C'était uniquement le souverain sacrificateur. Et c'était en obéissance à ce qu'on peut lire dans Lévitique 16, chapitre 16. Dans Lévitique, chapitre 16, ça nous raconte le jour des expiations. Il fallait, tout est expliqué comment il fallait qu'il rentre, quelles sont les choses qu'il fallait qu'il respecte, et tout est décrit là. Mais la chose à retenir, c'est que dans l'Ancien Testament, le sang qui était versé sur le propitiatoire, on se souvient que le propitiatoire, c'est le couvercle d'or, était versé là-dessus, et que ça n'enlevait pas le péché, ça le couvrait. Allez voir la différence avec le Nouveau Testament, avec l'œuvre de Christ. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'expiation signifie que le péché a non seulement été couvert, mais qu'il a été ôté. C'est une grosse, grosse différence. Romains 5, 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Le verbe « expier » traduit un terme qui en hébreu signifie « couvrir ». Pour les croyants de l'Ancien Testament, un péché expié était un péché couvert. Bienheureux, dit le psalmiste, celui dont le péché est couvert. Psaume 32, verset 1, Romains 4, 7. Il pouvait l'être en vertu du sang des victimes sacrifiées au temps de la loi, car, dit l'Écriture, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Hébreux 9, 22. Mais il ne pouvait pas être ôté, selon qu'il est aussi dit dans Hébreux 10, 4. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Voyez-vous, il a fallu que, dans l'Ancien Testament, qu'ils attendent que Christ vienne. Et quand Christ est venu, leur péché n'était plus seulement couvert, mais leur péché était ôté. Une très, très grande différence. Seul le sang de Christ pouvait le faire. Lui a été manifesté afin qu'il ôta nos péchés. 1 Jean 3, verset 5. À ce temps, on va aller lire Hébreux 10, verset 1 à 14, pour nous remettre un petit peu dans le contexte du souverain sacrificateur. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'anciennement, quand il faisait des sacrifices, il fallait qu'il répète continuellement et ça n'amenait jamais le pécheur à la perfection. Jamais. C'était continuellement répétable. Verset 2, « Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. » Verset 3, « Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. » Verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Voyez-vous, il est en train de leur expliquer aux Hébreux qu'ils avaient l'intention de retourner dans l'ancien système sacrificiel. Faites pas ça. Parce que avant vos péchés étaient couverts, là, sont ôtés, c'est pas pareil. Verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, voyez-vous, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » C'est couvert, mais il fallait que la victime parfaite vienne avant que ça soit agréé, ces sacrifices-là. Alors j'ai dit, « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Là, Jésus, je vais y aller, moi. Moi, je vais faire la victime, et en faisant la victime, en subissant la propitiation, et en accomplissant la loi, là, le péché va pouvoir être enlevé, mais pas avant. Verset 8, « Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose. De quoi il parle? Système sacrificatif ancien. Il abolit cet ancien système-là pour établir le nouveau qui, lui, enlève le péché à la perfection. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Et gardez bien, ça c'est très important le verset 10, en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Comment tu aurais juste ce verset-là dans les Écritures pour dire que la messe, c'est une folie furieuse? Ça serait suffisant. Verset 11, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, voyez-vous, dans le verset 11, ça le dit encore, ça le répète, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car, verset 14, la conclusion, car, par une seule offrande, celle de son propre corps parfait sans péché, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est qui ça?
Nous.
C'est nous. Je vais vous donner une autre petite trouvaille que j'ai faite sur le web, que j'ai trouvé intéressante, parce que j'ai fait des recherches pour essayer d'expliquer encore un petit peu plus en profondeur ces deux concepts-là, propitiation, expiation. Il y a le pasteur Charlie Martin, qui est un Américain, qui lui a fait un document d'à peu près 16 pages qui explique la différence entre les deux notions de la propitiation et de l'expiation. Moi, j'ai donné le lien dans le document que je vais vous remettre. Alors, si jamais vous voulez l'avoir, vous allez là, vous allez cliquer, vous pouvez l'avoir, 16 pages, il explique ça en profondeur, il explique ça en détail. Très bien fait. Mais j'ai retenu une phrase qu'il a dit, puis je vais vous la traduire, je vais vous la donner en anglais, vous la traduire en français après. Il dit, « Expiation means only half of what propitiation means. Expiation is an action that has sin as its object. It denotes the covering, putting away, or rubbing out of sin, so that it no longer constitutes a barrier to friendly fellowship between man and God. » Je ne veux pas trahir sa pensée, alors je me dis, je mets l'original, puis moi je le traduis à ma façon, j'ai marqué en dessous « traduction libre ». L'expiation, selon ce qu'il dit, ne signifie que la moitié de ce que signifie la propitiation. L'expiation est une action qui a le péché pour son objet. Il dénote couvrir, puis ôter et effacer le péché, de manière à ce qu'il ne constitue désormais plus un obstacle à la communion amicale entre Dieu et l'homme. Voyez-vous, c'est très important de saisir cette affaire-là, parce que, quitte à relire votre texte deux, trois fois, parce que c'est important de le saisir. La propitiation détourne la colère de Dieu sur la victime, Jésus-Christ, et permet que l'obéissance préceptive et pénale de Christ soit imputée sur le pécheur élu. La propitiation a donc pour objet la personne de Dieu, tandis que l'expiation a pour objet le péché. Voyez-vous, l'accent n'est pas mis à la même place. La propitiation, détourner la colère de Dieu, c'était d'abord pour satisfaire Dieu que Jésus l'a fait. Mais ça avait des répercussions. Si on croit en ça, Dieu peut prendre maintenant, après qu'il a détourné sa colère sur Christ, il est maintenant propice envers ceux qui croient que l'obéissance pénale et l'obéissance préceptive soient mis sur notre compte. Ah, merveilleux. Où j'étais rendu, tout ça? OK. La propitiation détourne. OK. Nous pouvons donc mieux comprendre en utilisant une illustration. J'ai trouvé une illustration intéressante. Et supposons que de la fenêtre de notre maison, nous pouvons voir un grand terrain rempli de déchets nauséabonds, de débris hideux, d'immondices et d'ordures. S'il tombe une abondante chute de neige, toutes ces choses sont couvertes. Maintenant, tu regardes dehors, tu ne vois plus rien de salaud, rien qui pue, rien qui... Mais le problème, c'est quand le printemps revient. ça fond, c'est encore tout là. Alors, il veut faire la différence, ça semble disparaître, mais c'est pas disparu. Alors, c'est ça, les Juifs de l'Ancien Testament, le péché qui était sous la couverture n'était pas encore enlevé. Mais au printemps, lorsque la neige fondra, tous les détritus réapparaîtront. Pour retrouver la propreté du terrain, il nous faudra complètement les enlever. Si tu veux revoir un beau terrain, il va falloir qu'éventuellement, tu enlèves tout ce qu'on appelle en québécois la scrap, tu enlèves tout ça, et là, à un moment donné, tu vas avoir un terrain qui va être aussi beau en été qu'en hiver. Alors, c'est vraiment l'idée un petit peu de la propitiation. Couvre, mais enlève ce qui est en dessous, mais quand tu es expié, là, tu peux enlever ce qui est en dessous. Ouais. La propitiation, l'expiation, c'est couvert, puis ouais, c'est ça, exactement. Et le théologien, j'ai consulté un autre livre de théologie, à l'écoute, le théologien Millard Erickson, dans son manuel de théologie Christian Theology, à la page 811, il abonde dans le même sens. Voyez, c'est ce qu'il dit. Il le dit encore en anglais, pour ça, on va le dire en français. « The numerous passages that speak of the wrath of God against sin are evidence that Christ's death was necessary propitiatory. So then, Paul's idea of the atoning debt, Christ as elasterion, qu'on a vu. Alors, là, je l'ai traduit parce que lui, il marque en grec, mais pour que vous puissiez le lire, je l'ai mis pour que... Is not simply that it covers sin and cleanses from its corruption, expiation, but that the sacrifice also appeases a God who hates sin and is radically opposed to it. Propitiation. Alors, il y en a un, c'est couverture, l'autre, c'est enlevé. Traduction libre. Les nombreux passages qui parlent de la colère de Dieu envers le péché sont des preuves que la mort de Christ était nécessairement propitiatoire. Donc, l'idée de Paul que la mort expiatoire, Christ comme elasterion, n'est pas seulement qu'elle couvre le péché et purifie de sa corruption, mais que le sacrifice apaisé aussi, le sacrifice apaisé aussi un Dieu qui est en colère et qui hait le péché et qui s'y oppose radicalement la propitiation. Je ne sais pas si vous avez bien saisi la différence entre les deux. Que je fais de mon possible, c'est pas ces choses nécessairement faciles à expliquer. Mais c'est bon, des fois, quand on n'est pas certain, on retourne dans le son, puis on fouille un peu plus, ou on download le document, puis on le lit, ceux qui lisent l'anglais, et ça se précise éventuellement. Troisième idée, on avait parlé de la réconciliation. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est la source de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, ça nous dit que la source de la réconciliation, c'est Dieu lui-même. Ça dit, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Ça dit que la réconciliation, ça vient, la source vient de Dieu, ça passe par Christ. Et aussi, il nous dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Dans quel sens il nous l'a donné, le ministère de la réconciliation? L'évangélisation. C'est quand on évangélise, à quelque part, on parle de Christ et il nous a donné les outils qu'il faut pour qu'on puisse partager le message aux autres. L'autre chose qu'on va regarder par rapport à la réconciliation, c'est l'instrument de la réconciliation. Romains 5, 10. « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Éphésiens 2, versets 14 à 16. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il parle de quoi? Il parle des deux peuples, les Hébreux, les Juifs et les païens. Il dit que fait tomber le mur de séparation, qui a fait un homme nouveau. Il dit, en créant lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Colossiens 1, versets 18 à 22. Il est la tête du corps de l'Église, dans le contexte où on parle de Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. D'ailleurs, on n'a pas le temps d'aller dans plus en profondeur dans ces passages-là. Il y aurait beaucoup de choses à dire. L'autre point, c'est le caractère des personnes réconciliées. Donc, il y a la source, il y a l'instrument, il y a le caractère. Dieu, pour nous, quand il est venu nous chercher, on était des ennemis et notre inimitié envers Dieu s'exprimait de deux façons. On avait une inimitié qu'on pourrait appeler interne et une inimitié qu'on peut appeler externe. On voit la différence entre les deux. Romains 8, versets 6 et 7. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, veut dire ennemi, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voyez-vous, inimitié interne, là, demandez pas un païen d'aimer Dieu. Il peut pas. Il peut pas obéir à la loi de Dieu tant qu'il a poursuivi la grâce de Dieu. Alors les irrégénérés, l'inimitié interne, c'est le fait que tu es irrégénéré, sont des ennemis de Dieu, des ennemis du Saint-Esprit et aussi des ennemis du peuple de Dieu. N'oublions pas ça. Alors, souhaitant, ils souhaitent, dans le fond, la non-existence de Dieu pour pouvoir vivre leur péché à leur guise. Ils rejettent ou ils tordent le sens des attributs de Dieu. Ils mettent tout l'accent sur l'amour. Ils ne parlent jamais de la justice. Ils ne parlent jamais de la sainteté. Alors, c'est une façon de tordre les Écritures. Ils se rébellent aussi contre ses décrets, son décret ou son plan. Ils se révoltent contre ses providences. Et quand on a eu les leçons sur le contentement, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas rien que les païens qui se révoltent contre les providences de Dieu. Nous aussi, on le fait parfois. Et quand on fait ça, on pêche. Parce que les providences de Dieu, Dieu nous envoie des circonstances, et c'est les circonstances qui sont les meilleures qui peut nous envoyer pour nous faire ressembler davantage à Christ. On ne le réalise pas toujours, mais quand on régimbe et quand on critique, quand on chiale contre les providences de Dieu, dans le fond, on se rebelle contre Dieu lui-même. Et on l'accuse aussi, les païens le font souvent, et ça peut arriver que les chrétiens le fassent aussi, ils l'accusent d'injustice ou de manque d'équité. Alors que les Écritures disent que ce n'est pas le cas. Alors l'inimitié interne, c'est que quand tu es un ennemi de quelqu'un, c'est normal que ça s'exprime en inimitié, puis en toutes sortes de rébellions, puis de péchés sous toutes ses formes. Maintenant, il y a l'inimitié externe. Cette inimitié se manifeste dans leurs innombrables œuvres méchantes et pécheresses, dans le bris de la loi de Dieu, dans l'entraînement des autres au péché et à la rébellion, et dans le rejet, le blasphème et l'éloignement volontaire. Voyez-vous, dans le fond, c'est... Il y en a un, c'est le principe de la vieille nature qui est en toi, l'inimitié interne. L'inimitié externe, c'est tout simplement qu'elle a fini par accomplir ou actualiser les péchés qu'elle a à l'intérieur, qu'elle veut faire de la chair. Alors, l'inimitié externe. Maintenant, on a parlé de l'inimitié interne, l'inimitié externe, mais est-ce que la Bible dit que Dieu est l'ennemi de l'homme irrégénéré? Oui, Romains 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voyez-vous, le Seigneur n'est pas venu nous chercher alors qu'on avait commencé à se repentir. Il est venu nous chercher alors qu'on était ses ennemis, alors qu'on était en pleine rébellion. Et là, il nous a donné, par la régénération, par la nouvelle naissance, le fait qu'on reconnaisse notre état de pécheur perdu, condamné à l'éternité dans l'enfer, et qu'on voit la solution et qu'on reçoive la solution volontairement. Alors, Dieu est aussi ennemi des irrégénérés et qu'il y a le seul moyen pour régler ça, c'est la grâce de Dieu. Quels sont les motifs qu'il utilise? On pourrait commencer par négativement. Guil a souvent cette habitude-là. Il commence par dire ce que les choses ne sont pas avant de dire ce qu'elles sont. Alors, les moyens utilisés pour l'inimitié, régler les questions de l'inimitié entre Dieu et les hommes. Négativement, nous ne sommes pas réconciliés par nos œuvres, ni par notre repentance, ni par notre foi, puisque la foi et la repentance sont des dons de Dieu. On n'est pas régénéré parce qu'on commence à se repentir, puis dit, regarde, il se repent, je lui donne... On reçoit la foi et la repentance sont déjà des cadeaux, et on n'est pas sauvé par la foi et la repentance. On est sauvé, on reçoit la foi et la dépendance, mais on est déjà sauvé quand on la reçoit. On l'exerce après la foi. Alors, positivement, nous sommes réconciliés par la personne et par l'œuvre de Christ. Quand on comprend que tout ce qui concerne le salut, c'est centré sur Christ, sur sa personne et son œuvre, on a compris un gros morceau. Alors, son obéissance active ou préceptive, on va commencer à habituer les préceptifs, j'aime ça, l'obéissance préceptive, qui consiste à avoir accompli à la perfection vicarialement et substitutivement les exigences de la loi à notre place. L'obéissance, alors, après avoir jugé nos péchés, la colère, détourner sa colère sur Christ qui aurait dû être sur nous, il pouvait maintenant transférer par imputation l'obéissance préceptive de Christ et aussi son obéissance pénale. Parce que, justement, il a accepté de subir le châtiment à notre place. Qui consiste à avoir subi à la perfection et de façon équivalente, à la place des élus, les sanctions prévues par les désobéissances à la loi ou au décalogue, la mort, les souffrances éternelles en enfer. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Très certainement au moins deux. Rendons gloire à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit pour le salut des élus. Glorifions Christ, notre garant, notre chef et notre représentant, qui a permis l'exécution de cette œuvre divine. Deuxième application, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous comprenions toute l'étendue, toute la richesse et toute la gloire de son œuvre. Que notre Dieu soit éternellement loué pour sa sagesse et son amour. Amen.